Monsieur Mermet, c'est une honte de prendre pour les grévistes le poste inter. Il appartient à tout le monde, il devrait être neutre. Deuxièmement, lancer un appel pour les brigades rouges, c'est une honte également. Alors, j'aimerais bien que ça change un peu, car c'est nous qui payons. Merci.
Bonjour Daniel, c'est Alain. Bonjour les grévistes de Radio France. Vos revendications sont franchement catégorielles, mais je vous soutiens. Ça ne m'empêche pas de me souvenir de votre attitude égoïste. Lorsque le gouvernement avait totalement supprimé, il y a quelques années, la déduction fiscale accordée au VRP, vous aviez tous profité de votre situation privilégiée au cœur des systèmes d'information pour conserver cet avantage. Mais je vous soutiens quand même. Notez bien aussi que les revendications des autres grévistes, tels les enseignants et les cheminots, valent bien les vôtres. Ça ne se perçoit pas vraiment au niveau de votre information, dame. Il y a information et information. Mais je vous soutiens encore. Parce que chaque fois que des revendications salariales sont refusées ou vidées de leur sens, c'est tout le monde salarial, public et privé, qui en souffre, qui en pâtit, qui s'affaiblit, qui en crève. Dans le privé, faire grève, c'est se flinguer. Ou bien alors, c'est juste avant d'être viré et qu'il est trop tard. Ma femme, qui travaille à mi-temps, faute à plein temps, voit son salaire net en bas de sa feuille de paye baisser inexorablement. Mais je vous soutiens toujours. Je me dis que vous, les professionnels du verbe, vous retrouverez peut-être le sens des mots solidarité et fraternité. Probablement que je dois être con ou déjà trop vieux. Probablement les deux. Mais je vous soutiens. Ah, au fait, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis chômeur du privé avant d'être chômeur de nulle part. Pour nous, les fainéants, les bons à rien, les boulets, vivement qu'on rouvre les camps de travail. Ah, ça y est, voilà encore que je déraille. Au secours, les cheminots!
Je vous appelle parce qu'évidemment, comme nombreux des auditeurs, j'ai été scandalisée par l'histoire de la jeune femme qui a accouché avec des menottes. Il se trouve aussi que je suis intervenante bénévole à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et que j'y étais hier après-midi. J'ai donc questionné les jeunes femmes que j'ai rencontrées, dont certaines ont accouché elles aussi en prison, et qui m'ont appris tout simplement que c'est pas nouveau cette manière d'accoucher. C'est un règlement et elles ont toutes accouché dans ces conditions-là, c'est-à-dire soit on accepte la présence d'une gardienne, soit on a des menottes. Donc c'est scandaleux pour la jeune femme dont on parle en ce moment, mais c'était déjà scandaleux pour les autres avant. Moi j'aimerais bien que vous essayiez d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet.
Oui, bonsoir, c'est Jean-Paul de Lyon. À propos de cette pauvre femme là qui a accouché attachée à son lit, menottée à son lit, je pense que pour que l'information soit complète, ce qui est aussi votre souhait, je l'espère, il faut quand même préciser qu'elle avait refusé la présence de la gardienne. Et qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si elle s'était précipitée par la fenêtre pour se défenestrer en se tuant et en tuant le gosse, par exemple. Au revoir.
C'est au sujet de la dame qui a accouché menottée. Tout le monde s'offusque maintenant qu'elle a accouché menottée. Mais je voulais juste vous dire, en 92, quand je préparais l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, nous savions déjà, dans les prisons des femmes et dans les sections d'hôpitaux qui les accueillent, qu'elles accouchaient menottées. Et les médecins ne s'offusquaient pas, les infirmières non plus, ni les gardiens. Il y a eu des gardes des sceaux, des gouvernements socialistes, de droite, et personne n'a rien changé. Voilà. Ciao, ciao.
César et Baptiste, il s'est fait arrêter, donc, en vue de son extradition vers l'Italie. Rappelons quand même qu'il était sous protection du gouvernement français depuis 1985, et Mitterrand avait donné sa promesse qu'il ne serait pas inquiété d'une quelconque extradition à la condition qu'il ne fasse pas de politique, ce qu'il n'a jamais fait, puisque Baptiste est toujours romancier. Voilà, donc là, il risque de se retrouver chez Berlusconi, qui va lui réserver un bien mauvais sort. Eh bien, voilà, moi, il y a 2 ans, j'ai voté pour ce putain de gouvernement. J'en ai encore mal aux fesses, hein, et je ne le referai plus. Salut, merci, c'est François. Au revoir.
À propos de Cesare, à 18h à Amiens, il y aura un rassemblement de soutien à la librairie de la Page d'Ancre. Les Parisiens se réuniront le lendemain à samedi à 15h au CICP 21 Terre rue Voltaire dans le 11e. Et enfin, pour finir, lundi à 16h, il y a une conférence de presse devant l'imprimerie de la Santé avec ses amis écrivains. Bah écoute, voilà, merci encore. C'était Gaël de Paris.
À tous les auditeurs qui ont raté des émissions de là-bas, si j'y suis, je conseille le site de la même émission. Donc des émissions en ligne, lbsjs.free.fr. Je répète, lbsjs.free.fr, tout en minuscules. Vous aurez les toutes les émissions de Daniel Mermet de septembre 2001 à nos jours, à aujourd'hui. Et je conseille surtout le mardi 3 février, le procès de Jacques Chirac. C'est délicieux. Voilà. Merci. Ciao.
Et voilà, de la publicité clandestine. Vous avez vu ça un petit peu? C'est gonflé quand même, hein, pour un site pirate. Hein. Alors surtout, n'allez pas sur ce site, lbsjs.free.fr, parce que c'est interdit, hein, c'est tout à fait pirate. Alors, on vous le précise, pour, au cas où vous tomberiez sur ce site par hasard, il y a effectivement des émissions de là-bas, si j'y suis, depuis 2001, et chaque jour, c'est mis en ligne d'une façon tout à fait illégale. Alors surtout, n'allez pas sur ce site, je répète, lbsjs.free.fr. Alors, concernant Cesare Battisti, nous avons son numéro d'écrou. Cet écrivain italien qui vient d'être arrêté. Je rappelle que Cesare Battisti est un ancien militant des années 70 en Italie, et il était réfugié politique en France, jouissant de la jurisprudence Mitterrand. Alors son numéro d'écrou, vous pouvez lui écrire, c'est 282-069-X. Je répète, 282-069-X, première division, prison de la Santé, 41 rue de la Santé, 75-014 Paris. Je répéterai ça à la fin de cette émission. Beaucoup de messages scandalisés, outrés, révoltés sur l'histoire effectivement de cette femme qui a une détenue qui a accouché dans un hôpital public menottée parce qu'elle ne voulait pas que la gardienne, sa surveillante, assiste à l'accouchement. Donc elle a été menottée et elle a accouché dans cette posture, ce qui on a eu des quantités de messages plus révoltés les uns que les autres. Aujourd'hui, avec Thierry Scharf, on va s'intéresser à un truc tout à fait nouveau, c'est un scoop, c'est quelque chose qui tout à fait neuf, c'est le voile. Ouais. Le voile, ça va bientôt être dépassé, mais justement c'est ça qui nous a intéressé, c'est d'aller voir ce que le voile sur le terrain, pas à la télé, pas à l'assemblée, mais ce que ça donne dans un bahut, dans un lycée du 9-3 à Drancy, ce que le voile, c'est dans la passe jésuite. Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf, la passe qui suit.
Flight number 2, arriving from New York.
Mais normalement, l'école est un lieu où les élèves doivent se sentir libres et égaux. Mais s'obstiner délibérément à montrer à quelle religion on appartient peut mener malheureusement Madame Gentil au communautarisme.
Communautarisme, toujours ce mot-là. Mais il me semble que ce mot n'est pas dans le dictionnaire.
Certes, ce mot n'est pas dans le dictionnaire, mais il n'empêche pas qu'il est utilisé pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
La L'Assemblée a adopté dans l'après-midi à une écrasante majorité le texte prohibant le port ostensible de signes religieux à l'école publique, et ce au nom du respect du principe de laïcité. C'était la première lecture, le projet sera examiné par le Sénat début mars. Cela dit, la loi, qui sera probablement appliquée à la rentrée prochaine, ne devrait pas mettre un terme définitif à la controverse.
C'est pourquoi, encore une fois, il est important, nécessaire et fondamental d'être présent en masse le 14 février dans les manifestations qui seront organisées dans chacune des grandes villes de France avec tous les partenaires qui défendent aujourd'hui le droit des citoyens, quels qu'ils soient, et qui refusent une loi discriminatoire. En s'imposant en toutes circonstances et de la façon la plus sérieuse et la plus consciencieuse possible, le calme, le respect de l'ordre public et le respect des institutions, manifestées pour ses droits citoyens en respectant le cadre légal qui est adéquat.
Se faire emmener en bateau. Se faire emmener en bateau, ça veut dire se retrouver embarqué sans pouvoir descendre, ni décider, entre les mains de celui qui gouverne le gouvernail, le seul maître à bord, après Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut pour que le gouvernant du gouvernail nous emmène en bateau? Eh bien, il faut des voiles. Et donc, le gouvernant du gouvernail a cherché des voiles. C'était pas facile, il y en avait pas beaucoup, mais il les a trouvés. Et il les a mis en avant, et il les a gonflés, ça durait pas, ça retombait tout le temps. Il manquait quelque chose pour nous embarquer. Il manquait le vent dans les voiles, pas de problème, toujours serviable. Les médias sont arrivés et ont fait du vent, beaucoup de vent, et nous voilà emmenés en bateau, en croisière forcée. Alors, on voulait pas tellement aller par là, on avait autre chose à faire à terre, plein de trucs qui allaient pas. Plus de 6% de chômeurs en un an, soit 137 900, fin décembre 2 446 500 demandeurs d'emploi, augmentation du nombre des hérémistes, 2,27%, soit 1 109 000 hérémistes en France. 3,3 millions de personnes percevant des minima sociaux, c'est-à-dire 6 millions de personnes concernées au total, si l'on compte les familles de ces bénéficiaires. 5 millions de Français vivant au-dessous du seuil de pauvreté, dont 1 million d'enfants, et 10% de plus au Resto du Cœur. 10% de plus au Resto du Cœur. Mères isolées, jeunes sans accès au RMI, personnes âgées, personnes sans aucune allocation de chômage, une tendance qui va s'affirmer compte tenu du durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs dont il nous est arrivé de parler. Des questions parmi d'autres, mais voilà, gouvernant, gouvernail, vent des médias, et nous voilà embarqués, toutes voiles dehors. La croisière ne fut point tranquille. Du tangage, de la houle, une vraie galère. 10 mois de traversée jusqu'au port. Le port du voile? Non, au port du voile, on jette l'ancre, place de la République, car la République est en danger. 1260 cas de voile, 20 cas difficiles, 4 cas d'exclusion. Mais la République était menacée. La loi est votée, mais il y a des lendemains. Et ces lendemains, on va les vivre pendant 7 heures dans un lycée du 9-3, c'est-à-dire le 93, près de Paris, à Drancy, où Thierry Scharf, de là-bas, si j'y suis, a promené ses micros.
Je suis rentré dans la maison comme un voleur. Et déjà, tu partageais le lourd repos des fleurs.
J'ai retiré mes vêtements tombés à terre. Et j'ai dit pour un moment à mon cœur de se taire. Je ne me voyais plus, j'avais perdu mon âme. Nu dans ce monde noir, sans regard, sans image. Dépouillé de moi-même, allégé de mes jours. N'ayant plus souvenir que de toi, mon amour. En secret frémissant qu'aveuglement je touche. Mémoire de mes mains, mémoire de ma bouche. Te voilà ma jacinthe entre mes bras captifs. Qui bouge doucement dans le lit quand j'arrive. Comme si tu faisais dans ton rêve ma place. Dans ce paysage où Dieu sait ce qui se passe. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, qui sommeille. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, qui sommeille.
Collègues et camarades, est-ce l'étoile de Vénus qui m'inspire ces lignes ou le vent de renouveau de l'air du Verseau? Est-ce la pleine lune ou une illumination, un éclair de conscience ou un simple élan d'humeur, de révolte, d'indignation, un appel à la révolution ou un modeste désir de communication, d'échange et de discussion? Au lyrisme engagé du mois de juin 2003 font écho ces quelques réflexions toutes subjectives et qui n'engagent que moi. Sur un sujet épineux et explosif, terrain miné, prêt à détonner, le soi-disant débat sur la laïcité, derrière lequel se cache la loi interdisant le voile.
Voilà, c'est une enseignante, Anne, du lycée de Drancy, du lycée de la Croix à Drancy, qui, comme tout son... tous ses collègues, tous ses confrères, enseignants, a été prise par cette ce débat qu'on voulait refuser, puis finalement on a appliqué, on a vu la réalisation totale de la formule de Pierre Bourdieu sur la circulation circulaire de l'information, c'est-à-dire on en parle parce qu'on en parle, et le fait qu'on en parle mérite qu'on se demande pourquoi on en parle. Et bien sûr que ce débat, ce faux débat sur le voile, et l'exemple même du leurre médiatique, de la trappe nigo, du trompe-couillon et de l'opération de diversion par rapport à beaucoup d'autres problèmes. Mais il faut aussi penser à nourrir le média business, c'est-à-dire la grosse machine, l'industrie médiatique. Et depuis 15 ans, depuis 1989, c'est vrai que le voile fait recettes dans les gazettes, avec l'immobilier, le salaire des cadres, le secret des francs-maçons, l'antisémitisme, la pédophilie, le Front National, etc. Le voile fait de l'audience, le voile fait tourner la machine du média business, dont la devise est, vous le savez, c'est pas parce que c'est intéressant que ça se vend, c'est parce que ça se vend que c'est intéressant. Alors ça, c'est un aspect des choses. Et puis, il y a évidemment le marketing électoral, la proximité des élections régionales qui ont accéléré les choses. Il s'agissait de plaire à, de répondre aux attentes, plus exactement, d'une certaine France. Alors, c'est quoi cette France ? C'est quoi cette France, puisque ce problème du voile dans des pays comparables aux nôtres, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, etc., ne pose pas du tout les mêmes problèmes. Nous aurons ceci de commun avec l'Iran, c'est qu'en Iran, le voile est absolument obligatoire, et chez nous, il sera absolument interdit. Alors, bien évidemment, on ne parle pas de voile, on parle de signes religieux, à l'école, et dans le secteur hospitalier, mais ça ne trompe personne. On sait très bien qu'en fait, le voile la question de l'intégration des Français d'origine, parce que maintenant on dit pas français, on dit français d'origine quelque chose, d'origine évidemment du Maghreb. C'est cette longue histoire qui dure depuis le 8e siècle avec les Sarrasins et puis les Mahométans et puis les Bougnoules. Mais oui. Et puis aujourd'hui c'est français d'origine maghrébine. Jusqu'à ce que le mot musulman, eh bien, gagne tout le monde, enfin tout ce monde-là, et qu'on soit obligé de rappeler, il y a musulman laïque, on devient musulman laïque. Enfin, vous suivez tout ça. Vous êtes engueulé hier soir en famille. On s'engueulera à nouveau ce soir. Alors, on a voulu quand même aller voir ce que ça donne, parce que ça, c'est à la télé, c'est dans le cercle familial. Mais qu'est-ce que ça donne dans un lycée comme celui-là, avec des gens qui sont tous valeureux, engagés dans leur travail, gens pleins de bonne volonté. Enfin, s'il n'y a pas de cynisme, on n'est pas dans ce cadre-là. Et comment ça se passe du côté aussi bien des enseignants que des élèves, parce que malgré tout, le voile est porté par des jeunes filles dont on ne sait pas grand-chose, à part à plusieurs reprises dans la basse J'y suis, où lorsque nous nous étions intéressés à ce que nous avions appelé l'islamalgame, toujours avec Thierry, on a vu beaucoup d'appels sur le répondeur de la basse J'y suis de jeunes filles ou de jeunes femmes ou de femmes portant le voile qui s'étaient exprimées sur le répondeur en disant qui elles étaient, pourquoi, comment elles vivaient cet accoutrement, disons, hein, et pourquoi, et ça correspondait pas trop aux clichés qui circulent généralement. Mais après tout, bon ben faisons avec, puisqu'on en est là. Beaucoup de choses ont été soulevées, le communautarisme, l'islamophobie, tout un tas de questions qui interrogent, qui réveillent notre culture à nous, français, avec notre république, avec notre laïcité, et qui révèle aussi un certain nombre de choses enfouies au plus profond de nos archéologies mentales, pour essayer de faire un petit peu savant, et tout ça va se donner un peu à entendre et à voir aussi dans ce qui suit. Alors, on est avec d'abord Éric Finot, qui est prof d'histoire. Il s'appelle Finot, imaginez les mots. Mais... Bon, Éric Finot, qui est prof d'histoire géo au lycée de Drancy et qui présente l'établissement.
Donc, c'est un lycée polyvalent de Drancy, c'est-à-dire qu'il y a une partie lycée général et technologique et une partie lycée professionnel. Donc moi, je travaille au lycée professionnel, c'est là où on forme les BEP et les bacs pro. Et puis dans l'autre partie, il y a le lycée général, quoi, seconde, première et terminale et BTS, quoi.
Alors c'est un gros lycée, hein. Il y a combien?
2000 élèves.
2000 élèves. Combien de profs?
Combien? 1875 ou je sais pas quoi.
C'est énorme, ça.
Ouais. Merci. Donc la population, elle est essentiellement de milieu ouvrier, salarié, pas très riche, et puis bon bah pas mal immigré. Ouais, surtout dans la partie professionnelle, la plupart de mes classes, la moitié d'origine maghrébine, un tiers d'origine africaine, et puis le reste un peu de tout, quoi. Enfin d'origine, hein, parce que sinon c'est tous. La plupart sont tous nés en France. Hein,
Donc français.
Oui, bien sûr.
Hein. C'est un lycée qui est plutôt en bon état. Hein. Oui. Ça a été refait, rénové il n'y a pas longtemps, j'imagine.
Il a été rénové...
Ah, c'est marqué, une petite plaque.
En 98, voilà. Moi, j'étais pas encore arrivé. Oui, c'est pas un cadre désagréable, hein. Ça c'est sûr. Malgré qu'on nous enlève de plus en plus de surveillants, de personnel pour nettoyer les athos. Vous savez ce que c'est.
Ouais. Ouais, c'est le personnel de service. Hein. Et combien de filles voilées?
Alors, d'après ce que nous a dit le proviseur, en début d'année, c'est 8. Moi, on les voit très très peu. Sur presque 2000 élèves, c'est un nombre infime, heureusement. Enfin, c'est mon point de vue. Donc voilà, c'est entre 8 et 12.
Et donc, depuis quelque temps, là, le climat s'est envenimé, hein, parmi les profs. Ça devient la discussion qui fâche.
Oui, il y a des opinions très tranchées entre certains comme moi qui sont contre le voile et puis d'autres qui sont, moi je dirais pour, eux diront qu'ils ne sont pas pour l'interdiction du voile.
Sarah,
on a besoin de toi.
Ah, est-ce que vous avez entendu parler les filles là? Puis il y a un seul gars là autour de la table. On est bien là au soleil, hein?
Il y en a deux.
Fait chaud, hein? Ah, il y en a deux maintenant. Voilà. La question du voile. Il y a Sarah qui arrive. Bonjour.
Bonjour. Moi, je pense que c'est injuste. Parce qu'à partir du moment où un pays, c'est une démocratie, c'est un pays libre, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et la question du voile, elle a été remise en cause. Depuis toujours, les filles, elles ont porté le voile. Et je ne sais pas pourquoi elle a été remise en cause maintenant.
Vous avez toujours vu, quoi.
Personne, ni les professeurs, ni le proviseur, ni la CPE.
Si ça a dérangé les gens, je suis désolée.
Bah les professeurs, ça dérange les profs. Mais de toute façon, il y a d'autres trucs qui dérangent, parce que moi je sais, je vois les gothiques, bah il y a des musulmans, ça les dérange de voir des gothiques, donc je vois pas pourquoi les musulmans ils se croient tout permis. Et voilà, hein, je suis contre le voile dans l'école. Après en dehors ils font ce qu'ils veulent, mais pas dans l'école.
L'interdire au sein de l'école quand on est dans la cour, non. C'est une forme de religion, c'est comme les gens qui portent des grosses croix à l'envers, trucs comme ça, voilà. Je vois, il y a des gens...
Oui, mais c'est lui qui est visé, là, le gothique, là. Ah, mais t'as porté une croix.
J'étais obligé de l'enlever parce que le professeur, il m'a dit que c'était la même chose que le voile, c'était un signe ostentatoire et donc je peux plus le mettre dans le sein du lycée. Même si la loi n'est pas encore passée, il m'a dit de pas la mettre.
Est-ce que ça en rajoutait?
Bah, je sais pas si ça en rajoutait ou quoi, mais... Je sais pas, c'est un signe philosophique et c'est considéré de la même manière que les croix, les voiles et tout.
Vous, si vous deviez voter, vous, si vous étiez député là, vous la voteriez la loi? Toi, vas-y, on va pas faire un tour de table. Vous diriez oui à une loi qui interdit le voile?
Non, moi je dirais non.
Et toi?
Non.
Toi?
Moi non.
Toi?
Non.
Non. Moi, franchement, faudrait que je me concentre plus sur la question. Après que j'ai bien étudié la question, je prendrai une décision adéquate pour le bien de tout le monde.
T'es bon pour te présenter au présidentiel, toi, hein?
Ouais, mais là aussi, il faut que j'étudie la question.
Alors voilà, l'ambiance un petit peu au lycée de la Croix à Drancy. Les gothiques, vous saviez que ça existait, vous, les gothiques? Ah voilà, hein, les gothiques, attention aux gothiques, hein. Bon, alors voilà comment ça se passe, hein, des échos comme ça du côté des jeunes, du côté des lycéens. Du côté des profs, c'est un petit peu différent. Le proviseur, Monsieur Cieux, il s'appelle Monsieur Cieux.
Le voile dans l'établissement, jusqu'à l'annonce de la réflexion sur la loi, ne posait strictement aucun problème. Il y avait une espèce d'agrément, de modus vivendi, qui faisait que tout le monde acceptait les jeunes filles avec des voiles, dès l'instant où elles respectaient ce qui était au règlement intérieur, c'est-à-dire se découvrir dans les TP et assister aux cours d'éducation physique et de SVT. La loi s'annonçant, les esprits se sont un peu crispés, se sont un peu tendus. Chacun est devenu un peu partisan et il est temps que la loi soit votée.
Combien y a de filles voilées ici?
Alors, des jeunes filles voilées avec un voile qu'on qualifiera de timide, une petite quinzaine. Des jeunes filles entièrement voilées, c'est-à-dire chasublées, deux ou trois. Donc, ces jeunes filles...
Chasublées, c'est-à-dire?
Ben, ce que j'appelle moi chasublé, c'est des jeunes filles qui ont une tunique et dont on ne voit que les yeux d'apparent et avec plusieurs voiles et des grandes chasubles. On en a deux en BEP qui nous posent problème puisqu'elles ont refusé d'assister au stage où là on leur demandait de retrousser les manches et de laisser apparaître les chevilles dans des tenues d'agents de techniciens d'hôpital. Parce que c'était contraire à leurs prescriptions religieuses et de par ce fait, elles se sont mis en position de ne pouvoir passer le BEP sanitaire et social dans la mesure où elles ne pouvaient pas valider l'expérience professionnelle des stages. Donc là, on a un petit souci actuellement avec deux jeunes filles. On n'avait jamais eu de problème particulier auparavant, hein, ça s'était absolument pas posé. Donc là, il y a une petite radicalisation d'une part, d'une minorité de jeunes filles qui sont prêtes à mettre fin à leur scolarité, c'est-à-dire à ne pas obtenir de diplôme et à ne pas avoir une sortie valorisante du système scolaire, suite à une prise de position tout à fait intolérante.
En 1880, Jules Ferry impose un enseignement
obligatoire, primaire et laïque.
C'est pour cela que la loi Stasi est nécessaire, car elle permet de maintenir les valeurs de la République en empêchant sensiblement que les signes religieux ostensibles ne remettent en cause les fondements de la laïcité et par conséquent la liberté.
Non, 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 je ne suis pas d'accord.
Voilà les élèves du lycée de la Croix à Drancy qui ont fait une mise en scène du débat qui anime, faux débat ou vrai débat, bon voilà, mais elles ont mis ça, enfin les élèves, les garçons et filles ont mis ça en scène. On les retrouvera lundi autour de cette parodie qui est très très drôle et qui est très révélatrice de ce qu'on essaye de leur mettre dans la tête, la façon dont les idées reçues, ce que Bourdieu appelait les doxosophes, hein, qui sont une fois de plus à l'œuvre. Alors comment ça se passe du côté des profs? On vient de nous dire que c'était assez tendu. On va voir que c'est vrai. C'est assez tendu. Vous allez entendre une conversation dans la salle des profs entre Pascal Sioux, qui est prof d'histoire géo, Max Sébastien, qui est prof d'anglais, et Pierre Thévagnan, qui est, lui, prof de philo. En route.
L'an dernier, il y a 7 élèves de BTS qui n'ont pas fait de stage professionnel parce qu'elles voulaient à tout prix être voilées. Elles sont pas cette année en BTS, elles n'ont pas pu valider leur année. Cette année, il y a une élève qui refuse de relever ses manches alors qu'elle est dans un BEP professionnel parce qu'il y a des garçons dans la classe.
Ah oui, à ce moment-là.
Et donc, elle pourra pas avoir d'avenir professionnel. On parle de l'exclusion, c'est... Moi, je constate, hein, des jeunes filles sont utilisées par une idéologie islamiste et puis elles sont envoyées dans le mur et dans la catastrophe sociale. C'est quand même quelque chose qui doit nous amener à réfléchir et à intervenir. Moi, personnellement, je suis pour la loi. Hein.
Je suis assez surpris d'entendre mon collègue là parler. Je l'ai déjà entendu, je vais être un peu juste, faire part d'un souci quant à l'avenir scolaire et professionnel de ses élèves. Le débat national tel que je l'ai un petit peu suivi traite assez peu de cette question. On est surtout dans une discussion de principe autour de la laïcité et du féminisme et assez peu sur une vraie réflexion sur l'avenir scolaire de ces jeunes filles, comme les deux jeunes filles qui ont été donc renvoyées du lycée d'Aubervilliers, n'ont pas reçu leur cours du CNED, ce qui met vraiment grandement en danger leur année. Donc il y a quand même une sorte de volonté de fermer l'école à certaines personnes. Et c'est ce contre quoi je m'insurge.
Ceux qui sont contre la loi, ils sont racistes. Là, on vient de se faire traiter de racistes, c'est ce que tu viens de dire. Bon, bah, c'est pas normal. Tu le sais, franchement, moi, je comprends pas cette attitude-là. Et ça me choque. Sûrement, c'est toujours nous qui avons tort. Toujours nous, les racistes, les islamophobes, je sais pas quoi.
Mais jamais dit ça. Tu m'as déjà entendu dire ça?
Pas devant moi, tu l'oserais pas. Mais je pense que tu le dis par ailleurs. Et d'ailleurs, tu m'as accusé d'avoir dit des propos sur l'islam. Ah, je suis bien incapable d'en avoir. C'est pas ma spécialité. Donc, je peux te dire, c'est pas de ça. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est que t'as parlé de vieux principes. Bah, malheureusement, il y a des principes qui sont pas si vieux que ça. Il y a encore ici des collègues qui sont battus pour avoir le droit d'avorter. T'as des femmes qui se sont battues pour avoir les mêmes droits que les hommes.
Quel est le rapport avec le voile?
Le voile, tu sais très bien, tant que les hommes seront pas obligés ou même ne pourront pas porter le voile, moi je considérais que c'est quand même un petit peu un signe d'oppression de la femme. Il se trouve que dans le monde entier, il y a des femmes qui luttent pour pas avoir à rester à la baraque, pour pas avoir à porter ça. Et ben ça, moi je suis solidaire de toutes celles-là. Et ici en France, on sait bien qu'il y a des filles qui ont des problèmes. C'est pas un problème de religion, c'est un problème de droit des femmes. Un peu partout dans les cités, t'as des filles, elles osent plus sortir. Eh ben, tu m'excuses, mais les gens qui militent pour le voile, je parle pas de toi, mais les gens qui militent pour le voile, leur conception de la femme, c'est pas la mienne.
Moi, je m'étonne que tout le monde soit tout d'un coup devenu féministe en 2004, sur cette question et sur cette question seulement. Il y a des individus ou des organisations politiques qu'on n'a jamais vues sur des luttes féministes qui deviennent ultra-féministes. Il y a également un discours...
Des associations, cite des noms. Bah, dis ce que tu penses. Cite des noms. Qui c'était la première femme qui s'est présentée aux élections?
On s'en fout du tout.
Bah, tu m'attaques.
Bon,
je te le dis.
On peut aborder le fond?
Ouais. Discute du fond. Bah, cite des noms.
Voilà un petit peu le climat dans le lycée depuis cette rentrée. Donc ce que je voudrais dire, c'est que quand je dis que tout commence en 2004, c'est que moi je suis ici depuis 8 ans. Je suis ici depuis 8 ans, il y a des filles voilées depuis à peu près 6 ans. Il n'y a pas eu une assemblée générale de profs où cette question a été soulevée comme un problème, et on en a eu beaucoup, et on a eu beaucoup de luttes. Moi j'ai eu une élève voilée une année. Il n'y a pas eu un conseil de classe et une discussion de couloir avec les collègues, y compris sur cet élève. Je parle de mon cas sur cet élève.
Si, ça fait très longtemps que les collègues de BTS, par exemple, nous alertent sur ce type de problème et sur les conséquences en matière professionnelle que ça a, c'est-à-dire que leurs élèves, ils disparaissent sans avenir professionnel. Ça fait longtemps. Comme la situation légale était que on ne pouvait rien faire, on vivait avec. À partir du moment où il y a l'espoir de pouvoir faire évoluer les choses, et la loi, elle prévoit aussi le dialogue, semble-t-il, ça sera un point positif. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les sondages montrent que 3 enseignants sur 4 sont en faveur de cette loi. Ça doit pas être complètement faux.
Bravo. Je vais rester sur le fond. Sur le fond, les combats féministes, c'est des femmes qui se sont battues elles-mêmes pour leur propre émancipation. C'est pas des gens qui viennent émanciper d'autres gens sans leur demander leur avis. Quand on aide des gens à s'émanciper, la condition pour que ce soit quelque chose de sain, de sincère et de productif, c'est que ce soit les gens qui vous aient demandé l'aide. Des gens qui ne vous ont rien demandé à les décréter que par la force et par la sanction et par la sommation, on va les émanciper. C'est le schéma colonial dans l'histoire, c'est ça. Émanciper les gens contre leur gré sans qu'ils aient rien demandé, c'est la colonisation.
On a tous les défauts, là.
On a une loi qui se présente comme super féministe. On parlera de la laïcité après, mais il faut pas sauter comme ça d'argument en argument.
Elle ne se présente pas comme super féministe, c'est sur la laïcité. C'est pas sur le droit des femmes.
Attendez, quand je suis arrivé... Tu étais en train de dire mot pour mot, c'est pas une question de religion, c'est une question de droit des femmes. Alors, faut arrêter, je réponds sur droit des femmes, tu me réponds laïcité. Je vais te répondre sur laïcité, tu vas me répondre droit des femmes. Je réponds sur droit des femmes, après on parle de laïcité.
T'énerves pas, Pierre. Tu dis c'est une loi féministe.
Non, sur cette loi.
Moi, je disais quelque chose de féministe. La loi, elle parle pas spécialement du droit des femmes, elle parle de la laïcité, c'est tout.
Oui, et maintenant, la loi, certes, effectivement, et elle parle de tous les signes religieux. Maintenant, le débat depuis 6 mois, les argumentaires, et même les pétitions qui finissent par on veut une interdiction de tous les signes religieux. Même ces textes-là, leur argumentaire, les lignes du dessus, ne parlent que du foulard et du droit des femmes. Alors moi, je réponds là-dessus. Après, on parlera de la laïcité.
Non, je ne suis pas d'accord. Car ces signes religieux ne vont pas en contre les valeurs de la République. Au contraire.
Ah bon ? Vous trouvez que cette liberté entrave la liberté individuelle ?
Bien sûr, elles entravent la liberté individuelle.
Et vous ne trouvez pas qu'afficher ostensiblement des signes religieux relève du prosélytisme ?
Oh là là, tout de suite les grands mots. Ce ne sont que des élèves qui vont à l'école pour apprendre le respect,
bien sûr, c'est ce que
pour apprendre pour avoir une éducation.
Et quand on entend les profs parler comme ils viennent de le faire, avec toute leur sincérité, évidemment. Moi, si j'étais une jeune fille de 14 ans, l'oreille collée sur le mur en les entendant parler comme ça, immédiatement je porterais le voile, je mettrais un voile pour les entendre continuer. Oui, bien sûr, il y a ce dire par là qu'il y a cette dimension de l'adolescence, de ce goût heureux des adolescents de subvertir, de provoquer, et le port du voile chez les jeunes filles n'est pas étranger à cette tradition. C'est pas la seule ingrédient, sans doute, mais je pense que c'est un élément. Alors ben voilà, une jeune fille qui n'a sans doute pas écouté au mur, certainement pas.
Tu sors de cours là ?
Oui, je sors de cours.
Alors toi, tu portes le foulard, hein ? Tu portes un foulard blanc ?
Oui. Hein ?
Et puis par-dessus
en fait,
autre foulard noir.
Un bandana. Le blanc c'est un bandana et le dessus c'est un foulard.
D'accord. Et pourquoi tu portes les deux à la fois ?
Bah ça n'a pas trop d'importance. Je veux dire, je peux très bien mettre le noir et pas porter le blanc. Je veux dire, c'est comme
ça. Non mais c'est joli, hein, le blanc ça.
Ouais, c'est joli, mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire, vous pouvez le mettre comme ça, comme vous pouvez le mettre autrement, comme vous pouvez mettre plein d'autres choses. Ça n'a pas tellement d'importance.
Et ça, toi, tu vas en cours comme ça, hein. Tu sors de cours, t'étais ouais. Comme ça.
Oui.
Mais bon, on voit bien ton visage, hein.
Oui, on le voit bien.
Toi, ça fait combien de temps que tu le portes ?
Ça fait 2 ans.
2 ans. Et t'as quel âge ?
Là, j'ai 19 ans.
Donc t'es en terminale ?
Non, je suis en première.
Et dans le bahut, alors, ça se passe comment ?
Bah, au lycée, ça va. On m'a demandé de l'enlever.
Ah bon, on t'a demandé de l'enlever qui ?
Bah, le proviseur.
Ouais.
Mais je me suis imposée. Sinon, on m'a plus reconvoquée, quoi. Mais je suppose que le proviseur attend
la rentrée prochaine pour pouvoir mettre ses lois. Parce qu'il m'a dit que rien ne l'interdisait dans l'établissement, c'est-à-dire dans le règlement intérieur. Mais il attendait la rentrée prochaine pour pouvoir bien expliquer, bien mettre dans le règlement intérieur que tout signe religieux était interdit.
Bon, alors toi, t'es en première, ça veut dire que l'année prochaine, t'es encore là. Qu'est-ce que tu vas faire ?
Bah moi, je me présenterai à l'école comme je me présenterai normalement. Et puis si ça pose problème, je veux bien faire des compromis.
Lesquels ?
C'est-à-dire, comme vous voyez là, je suis avec un bandana et un foulard, je veux bien garder mon bandana. Maintenant, si on me dit tu retires tout, là, j'accepterai pas.
Toi, t'es de quel pays à l'origine ?
Moi, je suis malienne.
Et alors, l'excision, t'en penses quoi, toi, par exemple ?
Exciser une fille pour l'empêcher d'avoir des plaisirs sexuels, c'est n'importe quoi. Maintenant, après, les gens, ils vont tout mélanger, ils vont dire que ça fait partie aussi de la religion.
Mais alors, par exemple, s'il y en avait qui diraient « Ah oui, mais nous, c'est nos traditions, faut faire comme ça, etc. » Tu leur imposerais ça, toi, l'interdiction ?
Imposerais peut-être pas, parce que comme ils diraient, c'est leur tradition. Mais j'essaierais de leur faire comprendre que la femme a le droit de jouir comme l'homme. C'est elle qui porte le bébé 9 mois, c'est elle qui accouche. Au moins, laissez-lui ce plaisir.
En tous les cas, toi, tu veux pas laisser aux autres jouir de voir
de
tes cheveux.
De mon corps.
Et de ton corps.
Ouais. C'est mon mari, c'est tout. Ce sera
que lui qui a droit.
Voilà, il y a que lui qui a droit à jouir de mon corps. Pas les autres. Je vois pas pourquoi les autres ont le droit de jouir de mon corps.
Mais moi, par exemple, je peux regarder ton visage, qui est joli d'ailleurs.
Merci. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez voir le reste. Je veux dire, tout le monde peut voir le visage. Vous voyez d'autres personnes qui ont carrément le visage recouvert. Par contre, là, vous les voyez pas. Ça, c'est leur choix aussi. Moi, j'ai le choix d'exposer mon visage et d'autres ont le choix de le couvrir.
Et est-ce que c'est pas une façon pour toi aussi d'avoir la paix avec les garçons ? Comme ça, ils t'ennuient pas, ils te...
De mettre le foulard ? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout mon intention. C'est vraiment un symbole de foi. Ça a rien à voir avec les garçons. Ah non, pas du tout. Hein. Je suis loin des garçons. Moi, j'étais... pas du tout.
C'est-à-dire loin des garçons ?
C'est-à-dire, quand j'ai mis mon voile, j'ai pas pensé aux garçons. Je me suis pas dit... lui, il va pas me regarder si je mets mon voile. Non. C'est vraiment un symbole de foi. Je l'ai mis pour Dieu. Et j'espère le garder toute ma vie.
C'est le coup de feu, c'est l'heure de la cantine, là ?
Tout à fait, oui.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la question du voile et de la loi ? Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ?
Je ne suis pas du tout favorable à une loi pour ça. Parce que pour moi, je laisse la liberté à tout un chacun.
Moi, je suis contre, de toute façon.
Vous êtes contre quoi ?
Le voile, leur déguisement, ils viennent, machin. On n'est même plus en France, de toute façon. On va me traiter de raciste, mais oui, bien sûr. On est envahi par les Chinois, les Hindous, les Noirs, les Arabes, enfin, il y a tout ce qu'il faut, alors ça va. La France, on la cherche. Hein. Moi, je suis pas contre les origines des gens, mais bon, c'est vrai qu'à l'école, moi, quand mon fils, il me dit, tiens, papa, l'autre, elle a un voile, c'est quoi ? Non.
Mais vous trouvez que ça pose un problème, vous, le voile dans le lycée ?
Ça peut poser un problème dans un lycée, bien sûr.
Ça peut, mais est-ce que ça pose un problème ?
Oh, pas à moi, parce que bon, je suis pas dans les lycées, mais...
Vous êtes à la cantine, vous.
Voilà. Je suis à la cantine, et puis même, c'est...
Maintenant, on n'a pas eu de problème particulier concernant le voile. Hein.
Et vous êtes contre l'idée d'une loi, vous, hein ?
Je suis contre l'idée d'une loi, parce que bon, si le voile est entré à l'école, il est évident que c'est un truc politique. Parce qu'avant, ils disaient l'école devait être laïque et ne pas avoir d'appartenance religieuse. Bon, le catholicisme est bien rentré. Hein ? Ben, et maintenant, ils veulent, ils veulent mettre le couteau sous la gorge des étudiants pour qu'ils puissent pas mettre leur voile. Alors que bon, moi, il y a longtemps, j'ai porté ma foi à ma chaîne.
Ah, vous n'êtes pas d'accord tous les deux, là, entre collègues, là.
Non, mais on va pas se battre, hein. Je m'en fous, moi. Ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils pensent. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, moi, bon... Ou alors j'ai rien compris, ou c'est plus mon époque, et puis voilà, quoi.
C'est la salle de français,
là ? De lettres et philosophie.
Vous êtes en train de réviser vos cours ?
Non, pas du tout. Je suis en train d'écrire des lettres pour mes collègues, pour aller voir Anabi de Kitano dans le cadre de lycéens au cinéma.
Alors, le voile, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de prof, là, ces derniers temps ?
Ça a changé les rapports entre nous. C'est-à-dire que, ben, je pense que on ne peut rien construire sur des ruines. Et ce qui s'est passé au printemps dernier, enfin en mai-juin 2003, avec l'échec du mouvement de grève, et ce problème du voile, en fait, a complètement désamorcé les envies de lutte. C'est-à-dire que là, moi, je serais prête à reprendre les manifestations, à repartir en lutte, mais en fait, ce problème du voile nous a complètement divisés. Divisé pour mieux régner, et du coup on s'engueule, enfin il y a des conflits, c'est la guerre quoi entre nous, et du coup ben on ne peut plus rien construire quoi. Et je pense que, je sais pas si c'est une stratégie du gouvernement, mais si c'est une stratégie, j'ai l'impression qu'ils ont gagné. Et donc, et même les responsables syndicaux, en fait, tout à coup, se sont vus des défenseurs de la laïcité ou du féminisme en demandant à ces jeunes filles d'enlever leur voile. Alors moi, je ne pense pas du tout que ce soit d'utiliser la répression ou que ce soit une solution. Je pense que là, il y a vraiment une atteinte à la liberté d'expression. Parce que ces jeunes filles, bon, elles portent le voile comme d'autres adolescentes portent des piercings, ou comme d'autres adolescentes vont vouloir exprimer leur malaise ou au contraire leur féminité en mettant des strings, etc. quoi. Bon, donc pour moi, c'est les jeunes filles qui portent le voile.
Vous le prenez pas mal, quoi. C'est pas.
Alors moi, je fais partie de celles qui ne vont absolument pas demander aux élèves de retirer leur voile, comme je ne demanderai pas aux élèves de retirer leur croix ou leur étoile juive, etc. Moi, je m'en moque. Pour moi, c'est une forme de liberté d'expression. Elles expriment leurs opinions, elles expriment leur foi. Et ça ne me dérange aucunement. Et surtout que les jeunes filles qui portent le voile sont plutôt des jeunes filles qui ne perturbent pas du tout les cours, bien au contraire. Mais bon, ce qui m'interroge beaucoup, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette hystérie, parce que c'est vraiment une hystérie par rapport à cette question du voile, parce que bon, le voile, c'est vraiment un détail dans l'islam, quoi. Bon, mais pourquoi des gens qui sont pourtant de gauche, qui sont des militants de longue date, vont focaliser comme ça sur ce bout de tissu et vont stigmatiser ces jeunes filles voilées, comme, enfin, qu'est-ce qu'elles représentent pour eux, qu'est-ce qui se cache derrière l'épouvantail du voile? C'est vraiment la question que je me pose, et j'aimerais bien qu'ils me répondent. Alors, est-ce que c'est justement la déprime post-échec de la grève qui fait que voilà, on a besoin de déplacer en fait ces angoisses sur quelque chose? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est un racisme très profond, très profondément ancré? Est-ce que c'est des sortes de pulsions primitives comme ça, de rejet de l'autre? Enfin, qu'est-ce que c'est? Parce que là vraiment, j'ai l'impression de vivre dans l'époque du maccartisme. Enfin bon, on ne repasse jamais deux fois par le même fleuve, dit Héraclite. Donc je ne vais pas faire d'analogie avec les communistes sous le maccartisme ou même les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, il se passe des choses inadmissibles. On ose dire des choses sur les musulmans et les femmes musulmanes qui sont intolérables. Et là, vraiment, il y a un phénomène d'intolérance, de rejet de l'autre. Et je trouve ça très triste. Voilà, je suis très triste. Ça me peine beaucoup.
Et oui, il se pourrait bien, en effet, que ce faux débat ait réveillé, comme je le disais tout à l'heure, un racisme qui s'ignore, un rejet qui est devenu tout à fait normal. On peut se vanter d'être islamophobe, c'est bien porté, c'est tout à fait accepté. Et on a entendu, et on entend couramment, un racisme tout à fait normal, comme celui qu'on entendait un peu avant l'indépendance de l'Algérie. On a entendu des choses remonter comme ça à la surface, à la faveur, si on peut dire, de ce débat qui, évidemment, n'est pas terminé. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Ce que le voile, on retrouve le proviseur qui a d'un avis différent, évidemment, Monsieur Sieux, proviseur de Drancy.
Alors vous, Monsieur le proviseur, vous êtes citoyen aussi, et quelle est votre position sur cette question d'une loi qui interdit le port du foulard dans les écoles?
Alors ma position a évolué. Au début, moi, j'étais
pas forcément partisan d'une loi, j'étais, puisque le modus vivendi fonctionnait dans l'établissement.
Et que vous le mettiez en pratique.
Et qu'il était en pratique et qu'il était accepté dans un lycée où il n'est pas facile d'obtenir un consensus. Cependant, j'ai beaucoup évolué. J'ai évolué parce que de mon bureau, je vois les deux cours de l'établissement. Et de plus en plus, avec cette radicalisation, cet esprit communautaire qu'on essaie de nous imposer, moi, je veux pouvoir, de la fenêtre de mon bureau, je ne veux pas pouvoir dire que les 30 jeunes filles qui sont dans la cour, j'ai 12 juives, 12 chrétiennes et le reste de musulmanes. Je voudrais que ce soit des élèves tout à fait anonymes à ce niveau-là. Et là, quelque part, ça me gêne de les sélectionner, entre guillemets, de voir immédiatement de quelle religion elles sont. C'est pas le but de l'école laïque. Le but de l'école laïque, c'est d'intégrer tout à chacun d'une manière anonyme.
En même temps, vous dites le but de l'école laïque, c'est d'intégrer, mais là, vous êtes pour une loi qui va conduire à l'exclusion.
La loi, oui. Alors là, on manie le paradoxe. C'est vrai que l'exclusion, moi, ça ne me satisfait pas. L'exclusion du système scolaire, de quiconque d'ailleurs, hein, parce que le but quand même de l'école, c'est de faire sortir quelqu'un avec une valorisation professionnelle et d'augmenter son niveau. Bon, on aura bien sûr deux ou trois jeunes filles qui feront le jusqu'au boutisme. Ça sera la marge. À ce moment-là, on exclura. Hein. Si on ne peut pas trouver d'entente, hein. Moi je suis pour le respect des institutions républicaines. Donc s'il y a une loi, il faut qu'elle soit appliquée. Ce qui est important dans la loi, c'est en républicain, ça s'agit. Il est quand même bon de redéfinir des limites et de faire attention que le communautarisme ou les courants différents sapent les institutions républicaines. C'est plus que le port du voile à l'intérieur de l'établissement. Ça me semble important que nos institutions ne vacillent pas. Et ça, j'ai des petites craintes.
Vous avez l'impression que c'est le cas?
J'ai l'impression que ça peut être le cas avec quelques jeunes filles manipulées. Que par derrière ça, il se dessine certainement des... L'école laïque dérange encore. Et tant mieux qu'elle dérange encore. Le consensus mou, moi j'y crois pas trop.
Tu vas où là?
Ben là, je vais à la mosquée.
À la mosquée là, entre pendant l'heure du déjeuner, tu vas à la mosquée.
Ouais, parce que comme il y a la prière de 1 heure... Et je peux pas la faire au lycée. Donc y a une mosquée juste à côté, donc j'en profite pour aller faire mes prières.
Tous les jours?
Quand même pas tous les jours, mais j'essaye le plus possible d'aller à la mosquée.
Donc ça te laisse peu de temps pour déjeuner, ça?
Ben je mange à la mosquée en même temps.
Ah bah voilà, d'une pierre deux coups.
Ouais.
Ah, dis-moi, je vois quelque chose sur ton cœur, là, oui. D'accroché, un petit ruban vert, c'est quoi ça?
Alors, il signifie en fait par rapport à la loi. Donc ouais, je suis contre le projet de loi.
Ah, le petit ruban vert, ça veut dire que t'es contre.
Voilà. Ça a été donné à la manifestation, ça.
Tu y étais?
Oui, j'y étais.
Donc t'es engagé quand même, hein, pour défendre le port du voile.
Ouais, je suis tout à fait engagé. Même pour les personnes, je veux dire, ça concerne pas que le voile. Les gens, ils parlent du voile, parce que je sais pas pourquoi, mais ils parlent que du voile. Mais ça parle de toutes les religions.
Tu dis
que
tu comprends pas, mais
au nom de
quoi tu crois qu'on veut t'interdire tout ça?
Je sais pas du tout pourquoi on veut m'interdire. Mais en tout cas, je ressens une certaine haine des gens.
Ah oui?
Ouais. Comment les gens vous regardent, des insultes.
Et de la part de qui, ça?
Ben, des gens, sortez dehors, je veux dire, prenez le bus, des gens vous regardent. Quand vous passez, soit ils vous insultent, ou soit ils vous disent retournez dans votre pays, ou des trucs comme ça. Des réflexions stupides, quoi.
Alors toi, t'es française?
Voilà, je suis tout à fait française, donc je me dis...
T'es née là?
Voilà, je suis née ici.
Tes parents?
Non, mes parents sont nés là-bas, ils sont nés ici.
Au Mali?
Voilà.
Sauf ça fait mal, ça, quand même.
Ah ouais, ça fait très mal quand on dit retourne dans ton pays. Mais cette haine, à chaque fois quand une personne me fait une réflexion, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi elle a voulu m'insulter, pourquoi... J'ai jamais les réponses. À chaque fois, avec d'autres personnes qui portent le foulard, on essaie de parler et tout, mais les réponses, elles sont jamais là. On se dit, ouais, mais peut-être parce qu'il a une haine, parce que ceci. Mais on sait jamais vraiment si c'est vraiment ça. Et faut qu'on pose la question à ces personnes-là et on les voit jamais. Enfin, on les voit, mais la réponse, elle est pas là.
Merci à tous, merci aux élèves du lycée de la Croix à Drancy. On les retrouvera lundi pour une deuxième partie de ce reportage. Merci à Monsieur Cieux, le proviseur, qui était le proviseur de nos camarades Michel Bézikian et Joël Spindel il y a déjà pas mal de temps. Merci à l'ensemble des professeurs du lycée. Merci à l'inspection académique. Info, samedi 14 février, Paris, 14h, à la République, manifestation contre la loi interdisant le foulard à l'école. Des livres, l'un vient de paraître, des filles comme les autres, les deux jeunes filles qui avaient fait un tel tapage, Alma et Lila Lévy, parlent au-delà du foulard, sous édition de La Découverte. Reportage Thierry Scharf, technique Olivier Riotor et Benjamin de la Gâtinais. Musique Koy Nguyen, le répondeur, le numéro c'est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37. C'est Christophe Imbert qui s'en occupe, assistante Anne de Giaferi, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je crois bien pouvoir vous dire que la grève des journalistes de l'information prend fin ce soir à minuit. On se retrouve lundi à 17h pour La Basse, j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Salut !